Les voies de service, mercredi 5 septembre 2018. Aujourd'hui, on va essayer d'apprendre les nations autochtones du Québec. Alors, c'est pour vous parler de l'Atlas des Premières Nations qui va sortir. Alors, je vais tester un peu vos connaissances, puis les miennes, parce que moi, je les apprends d'une fois à l'autre, puis je les oublie d'une fois à l'autre. Alors, à chaque semaine, on va un peu se remémorer les nations autochtones. Il faut que ça serve à quelque chose d'être ici. Et puis, je vais vous parler aussi de... J'ai oublié de quoi j'allais vous parler... d'une des nations autochtones, les Mohawks, qu'on va commémorer sur la rue Peel. Et c'est qui parlait? Ben, c'est Isabelle Falardeau. J'ai oublié de me présenter. Bonjour tout le monde. Et j'ai avec moi Daniel Lachance et Serge Bradet, comme toujours. Merci d'être là, les gars. Et donc, moi, je vous ai dit de quoi j'allais probablement parler.
Probablement.
À moins que je me sois trompée, mais non, je vais parler de ce dont j'ai dit que j'allais parler. Et vous, Daniel, ça va vraiment bien aujourd'hui. C'est mon deuxième café, je pense.
OK, oui. Peut-être ça va en prendre un troisième.
C'est trop gentil.
Première partie, je vais vous parler de streaming. J'ai de la misère à prononcer ce mot-là comme il faut. Streaming, mais bon, écoute, continue. Et en deuxième partie, je vais vous parler de Bob Dylan. Je vous dis pas quoi.
Ah, vous nous gardez toujours un peu de mystère.
Il faut,
hein? C'est
il faut.
Très, très agréable.
Faut vous garder
de votre côté, Serge.
Oui, depuis une semaine, qu'est-ce qui se passe au Québec? Non, c'était pas les élections, là. Qu'est-ce qui se passe depuis une semaine?
Vous êtes sûr? Parce que moi, j'ai vraiment l'impression...
Ah oui. Non, mais...
Donc, vous allez nous changer les idées un petit peu dans
c'est ce que vous Non, mais qu'est-ce qui se passe?
La rentrée,
oui. Alors, j'ai pensé à faire un petit... Je suis tombé sur une revue Cap au Diamant qui s'appelle « Sur les bancs d'école ». Alors, ça nous parle... Je vais vous parler de Marguerite Bourgeois, qui a fondé l'éducation.
Oui, c'est un peu la précurseur l'éducation au Québec.
La mère de l'éducation.
La mère, oui.
La mère. Merci. Et également, quelque chose qui est complètement disparu, l'école de rang dans les campagnes.
Ah oui, où là, on avait plusieurs classes, en fait, ensemble, niveaux.
Vous allez nous parler d'Émilie Bordelot?
Non, mais tout le monde sait que c'est ça. Oui.
Alors, merci beaucoup.
Ça, t'avais dit moins quart tantôt.
Alors oui, on est en train de se familiariser avec nos nouveaux micros. Merci beaucoup de votre patience. Alors donc, on va commencer tout de suite avec l'Atlas des Premières Nations. Je sais que vous avez hâte d'être débarrassé de votre petit quiz, les amis. Alors, je vais vous poser une question. Alors, facile, nommez-moi trois nations. Autochtones présentes au Québec. Daniel.
Les Mohawks.
Bravo.
Les Abénakis.
Les Abénakis, oui.
Ouais, c'est bon ça.
C'est bon.
Les Hurons, les Iroquois.
Les Iroquois, c'est peut-être un petit peu trop vague.
Ouais,
les Hurons-Wendat, oui, effectivement.
Okay. Mm-hmm.
Alors, bravo. Et moi, je vais vous parler aujourd'hui, je ne vous nommerai pas les autres là, parce que ça serait trop long, mais aujourd'hui, je vais vous parler d'une de celles que vous avez nommées, les Mohawks. Mais plus globalement, je vous parle de cet atlas complet sur les territoires, les langues et les cultures autochtones au Canada qui a été officiellement lancé à Toronto mercredi dernier. Alors, c'est un article qui a été publié le 29 août sur le site de la presse et qui est signé Gabriel Leroy. Et l'Atlas des peuples autochtones du Canada, donc, ça comprend 4 volumes publiés en français et en anglais. Il y a un volume sur chacune des grandes familles d'Autochtones. Là, on ne parle pas des nations, mais bien des familles. Donc, les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Et un autre volume sur la Commission de vérité et réconciliation. L'Atlas comprend des informations sur les communautés autochtones, les langues, l'éducation, les traités, les territoires, ne fait pas d'économie, l'économie de sujets qui dérangent parce qu'on aborde les pensionnats fédéraux, le colonialisme, le racisme, l'appropriation culturelle. Et on a... Bon, comme c'est un atlas, qu'est-ce qu'on s'attend à retrouver dans un atlas? Pas tous en même temps.
Beaucoup d'informations.
Mais des cartes.
Ah, des cartes.
Hein, moi, je m'attendais à ce qu'on nous parle. Alors, il va y avoir des cartes, des photographies contemporaines et historiques et un glossaire de termes autochtones courants. Donc, peut-être, j'imagine, on va retrouver comme quelque chose comme « kwe », qu'on entend souvent, qui veut dire « bonjour » ou « kwe kwe » ou... dans certaines langues.
On n'était pas au courant de ça.
Il y a plusieurs langues. Non, vous n'avez jamais entendu les membres de Première Nation commencer une entrevue en disant « quoi ». Ça voulait dire « bonjour », si jamais vous l'avez entendu. Donc, l'ouvrage est financé par le gouvernement fédéral, mais a été produit par la Société géographique royale du Canada en partenariat avec l'Assemblée des Premières Nations. Donc, l'Assemblée des Premières Nations, l'Inuit Tapirit Kanatami, et la Nation métisse, et également le Centre national pour la vérité et réconciliation. Et il y a un organisme que je ne connaissais pas, l'organisme INSPIRE, ou INSPIRE, INDSPIRE, qui se consacre à l'éducation des Autochtones, qui a aussi été impliqué dans la préparation de cet atlas. Les personnes qui sont impliquées dans le projet pensent que l'inclusion de toutes ces personnes-là constitue une première. Non seulement les enfants autochtones se verront eux-mêmes et leur peuple de façon respectueuse et constructive, mais les enfants non autochtones vont être pour la première fois éduqués avec des ressources provenant d'authentiques voix autochtones. Ça, c'est Charlène Bearhead probablement plus, qui est conseillère pédagogique pour le projet, qui nous dit ça. Elle est également coordonnatrice, Mme Bearhead, de l'éducation du public au sein de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Et elle se réjouit vraiment de cette démarche qui a été adoptée, donc la démarche d'inclure les Premières Nations dans la préparation de l'Atlas. Les Premières Nations ont décidé de ce qui se retrouverait dans le volume qui leur est consacré, pardon, tout comme les Métis et les Inuits. L'Atlas sera bientôt présenté dans les salles de classe partout au Canada. Et les enseignants recevront des documents qui les aideront à mieux utiliser la ressource. Mais Mme Bearhead croit que l'utilisation de l'Atlas devrait aller bien au-delà des salles de classe. C'est sûr que c'est déjà un bon début, mais il faut que ça aille plus loin. Elle aimerait que chaque famille, chaque maison dans ce pays possède cet Atlas comme point de départ pour s'instruire. Et c'est ainsi que se conclut cet article de Gabrielle Roy. Daniel, de quoi vous allez nous parler en première partie? Est-ce que vous gardez le mystère de Dylan pour la deuxième partie?
Oui, oui, absolument.
Vous gardez
absolument.
Le suspense le plus longtemps
en
possible.
En première partie, je vous parle de streaming. C'est un article qui a été écrit par Alain.
De quoi vous nous parlez?
J'aime pas ça, parce qu'en plus, dans le micro, j'ai toujours peur que ça siffle un peu trop. Hein. Je déteste
alors,
ça.
Alors, dites-le à la française, le streaming.
Oui, donc, c'est un article d'Alain Brunet qui est paru dans la presse plus du 1er septembre. L'écoute en continu, en anglais, vous pouvez le dire.
Le streaming.
Voilà, si vous préférez, est devenu un phénomène incontournable ces dernières années. Notre façon de consommer de la musique s'en trouve profondément transformée. Compositeurs, paroliers, producteurs et réalisateurs s'adaptent tant bien que mal, tandis que l'économie qui les entoure se transforme. Allons voir où nous en sommes aujourd'hui en 7 volets. Quelle plateforme d'écoute musicale compte le plus d'utilisateurs, d'après vous?
Moi, j'imagine que ça doit être Spotify.
Ça ressemble à ça.
C'est pas celle que j'utilise,
mais... C'est une question difficile. Hein? Ouais. Plus de 83 millions d'utilisateurs dans le monde ont un abonnement mensuel payant à Spotify pour un total de 180 millions d'utilisateurs, en incluant ceux qui évitent les frais d'abonnement. On ne dira pas comment ils font ça, mais bon, il y en a qui réussissent à faire ça.
Aïe, aïe, aïe.
Chez Apple Music, on a atteint le plateau de 40 millions d'abonnements payants en avril 2018. Du côté de YouTube, 520 millions d'utilisateurs ont regardé un contenu voué à la musique en juillet dernier, soit 40 % des 1,3 milliard d'utilisateurs de la plateforme. Ça commence à faire pas mal
donc,
de monde.
Donc, il y a 40 % qui écoutent de la musique sur YouTube.
Oui, parce qu'il y a plein de vidéos.
En même temps, ça a un peu commencé comme ça. Là, maintenant, il y a plein de YouTubers, des personnes qui font des...
Effectivement, au début, c'était plus de la musique.
Des vlogs, comme on dit.
Ainsi, YouTube est de loin la plus importante en matière de consommation musicale. C'est là qu'on voit qu'effectivement, notre façon de consommer de la musique a changé énormément. Quand j'étais jeune, ça aurait été impensable de dire « je vais payer un abonnement mensuel pour écouter de la musique ».
Non, je comprends.
J'avoue,
normalement qu'on avait à la maison Columbia qui s'envoie.
Mais quand j'étais jeune, ça aurait été impensable pour moi d'acheter de la musique parce que j'avais pas les moyens. Donc aujourd'hui, tout le monde a les moyens parce que c'est quand même pas si cher que ça par mois pour la quantité de chansons auxquelles on a accès.
C'est un aspect intéressant. En 2017, l'écoute en continu a franchi le cap des 377 milliards de clics. C'est 127 milliards de plus que l'année précédente. Cette habitude éclipse toutes les autres ayant trait à la consommation musicale. L'offre est sans précédent. Plateforme par excellence sur la toile, Spotify compte plus de 30 millions de chansons et met 20 000 nouveaux titres chaque jour à la disposition de ses utilisateurs. C'est quand même, ça fait...
Quand même.
C'est beaucoup quand de choix, mais j'imagine pour les auteurs-compositeurs qui essaient de percer, et c'est vraiment une aiguille dans une botte de foin.
Ouais,
tandis qu'Apple Music se targue d'avoir une discothèque de 40 millions de morceaux. Dans le monde entier, la part numérique des revenus de la musique était de 54 % au début de 2018, alors qu'elle représentait 50 % l'année précédente. Assurément, l'explosion de l'écoute en continu, elle a connu une progression de 60,4 % en 2016 et de 41 % en 2017, est le principal facteur de cette croissance. Pendant ce temps...
Parce qu'on parle pas juste de... Quand on parle de musique numérique, on parle pas juste de la musique en continu. On parle de quand on s'achète un album en MP3, des choses comme ça.
Voilà, parce que...
Donc, ça a augmenté de 60 % le streaming.
Et voilà, c'est beaucoup quand même.
Ouais.
Et quand on dit ici, pendant ce temps, la vente des contenus musicaux a décliné sur tous les fronts. Le téléchargement, parce qu'effectivement, l'écoute en continu, c'est différent de quand on va télécharger une chanson sur iTunes,
oui, c'est
par
ça,
exemple.
Exactement.
Le téléchargement de fichiers musicaux a reculé de 20,5 % Pourtant, c'est un phénomène assez récent. Là, ça ne fait pas des vingtaines d'années qu'on a ça.
Fait que donc ça, ça a reculé. Fait que vraiment, il y a vraiment gros impact de la musique en continu.
Les supports physiques, les CD, ont poursuivi leur déclin amorcé en 2000, reculant de 5,4 % de 2017 à 2018. Donc ça change
beaucoup. C'est moins étonnant. Mais
Mais ça fait longtemps qu'on en parle, le CD est beaucoup en déclin.
Ouais.
Un peu plus de la moitié des consommateurs sondés par la Digital Music Alliance en 2018 affirment avoir remplacé les albums par des listes d'écoute dans leurs habitudes de consommation musicale. Pour reprendre l'exemple de Spotify, les listes représentent de 60 à 70 % de l'écoute globale sur la plateforme. 2 milliards de listes d'écoute ont été produites sur Spotify, soit par des algorithmes de référencement, soit par les utilisateurs eux-mêmes, ou encore par une centaine de curateurs au service de l'entreprise. Ça, je ne connaissais pas. Je ne sais pas c'est quoi leur travail exactement.
J'avoue
mais
que...
ils préparent des setlists apparemment,
ouais,
des playlists. Bon. Toutefois, ces fameux algorithmes ont un effet pervers chez le consommateur de musique, car ils produisent chez lui une impression tronquée de la découverte et figeant du même coup sa curiosité. C'est un peu comme le phénomène de la publicité sur Google ou whatever. Ils finissent par avoir de la publicité très ciblée. Donc, on pense qu'on a le choix, mais ils nous envoient exactement ce qui va.
C'est ça.
Ce qui correspond
on
à nos
pas
goûts
compte, mais...
en général.
C'est ça. Donc, on a accès à... C'est ça. On n'est pas exposé à la variété qui, en fait, est
disponible. Non. Et la sélection est faite par d'autres. C'est pas nous qui faisons la présélection. Ça, c'est un peu dangereux. Champion du streaming, le rappeur canadien Drake compte en moyenne 63 millions d'écoutes par mois, totalisant 13,25 milliards d'écoutes depuis ses débuts. Ça doit commencer à être payant.
Je l'ai même pas dans ma playlist.
Ah, ça, t'es peut-être une des rares. Qui
oui.
Suivent le chanteur folk pop anglais Ed Sheeran avec 9,12 milliards de clics. Le chanteur pop R&B canadien Justin Bieber avec 8,7 milliards quand même. Et le rappeur américain Post Malone avec 5,91 milliards. En 2015, plus d'une centaine de chansons avaient été écoutées plus de 100 millions de fois en continu. alors que 400 chansons avaient franchi ce cap en 2017.
Et ils ne nous disent pas combien d'argent va dans les poches, par contre.
On va y aller. Ça aussi, c'est impressionnant.
J'ai une question. Moi, c'est vraiment du chinois pour moi, ces trucs-là. Je m'en vais au CD. Hein. Mais là, vous avez parlé mettons, un artiste là, qui a, il a 9 milliards de clics ou n'importe lequel.
De clics.
C'est-à-dire qu'il y a 6 milliards de personnes qui ont. 6 milliards de personnes qui ont cliqué.
Je peux. Ouais, ouais.
Seigneur.
Oui, mais c'est ça, la planète est quand même grande aujourd'hui. Mais ça veut dire qu'il y en a qui ont cliqué le plus.
C'est ça, il y en a qui ont cliqué le plus.
C'est cumulatif.
C'est pas 6 milliards de personnes.
C'est des clics, c'est pas des personnes. Donc, voilà. Toi, tu peux avoir cliqué 100 fois parce que tu l'aimes beaucoup. Voilà. Comme quand on était jeune, on écoutait la même
chose. Oui, parce qu'à 9 milliards, là, on n'est pas encore rendu. Hein, 9
milliards. Non, mais il y a peut-être des extraterrestres qui viennent cliquer. On ne connaît pas tous ceux qui cliquent. Donc, pour 1 million de clics sur Spotify, la chaîne de production d'un titre touche autour de 7 000 $. Plus précisément, une chanson rapporte à l'artiste et son équipe, ça, ce chiffre-là, c'est important, 0,003162 $ par clic. Ça veut dire 3 millièmes de sous.
C'est vraiment, vraiment pas beaucoup. Ça, c'est sur Spotify.
Ouais. Donc, ça en prend des milliers de clics, des millions de clics pour faire entrer l'argent.
J'avais lu que
avec
sur
ça.
Google Play, qui est celui que j'utilise, c'était un peu plus, là, mais
ouais,
ça doit,
c'est
ça,
peut-être
0,04. Ça reste quand même des plus grosses miettes. Mais...
Ouais. Donc, les quelques centaines de chansons ayant dépassé les 100 millions de clics en 2017 constituent une infime minorité et, de toute évidence, la croissance du streaming n'avantage qu'une poignée de multimillionnaires et appauvrit l'ensemble de la communauté artistique planétaire. Contrairement à ce qu'on peut croire, les plateformes d'écoute peinent à garder la tête hors de l'eau, sauf les services YouTube et Stingray, qui sont rentables vu l'infime rémunération destinée au contenu hébergé et les revenus importants engrangés. Avant son entrée en bourse au printemps 2018, le déficit cumulé de Spotify était estimé à 2,427 milliards d'euros, soit 2,887 milliards US.
Donc,
c'est dur à comprendre, à vous, cet argent-là. J'ai de la misère un peu.
Donc, non seulement il n'y a pas d'argent qui va dans les poches des artistes, mais en plus, ils sont déficitaires.
Apparemment, là, ils essaient de nous faire pleurer qu'ils ne font pas d'argent avec ça. Je
comprends
pas trop le... Ouais.
C'est
et l'article finit justement en disant, en bref, Spotify n'a jamais été rentable depuis sa création. Si l'industrie connaît une certaine croissance grâce au streaming et ses superstars, qu'adviendrait-il si le modèle s'écroulait?
On chante au nom du peuple, au nom de la mère terre. Que les peuples s'unissent et qu'on enterre la hache de guerre. Moi je viens d'un monde complètement différent, sur une réserve indienne mais issue de père blanc. L'héritage de ma mère, mes origines algonquines, tellement mêlées en cours de route sur ma propre estime. Suis-je amérindien ou blanc, et est-ce à moi de décider? J'ai compris que j'étais humain mais séparé d'une moitié. Y'a un peuple qui me parle et qui me rapproche de la mère terre, pendant que de l'autre côté on me dit que je marche pas sur mes terres. Y'a des milliards de gens, donc des milliards de races. Puis le message, pas juste d'avoir une bizarre de face. On a plus de plumes ni de flèches, j'ai à courir sur des chevaux. On a le job internet puis on mange du McDo. On sort de la réalité, on ignore la vérité. Je récite la suite d'une histoire non terminée. Pego do te, guante, niga, digo não. Pumete, teac, mu, peste, tanon.
Samian et Shawit nous chantaient Les Nomades.
Ah, oh, c'est vraiment, vraiment bon. J'aime ça. J'ai essayé de le trouver pour le mettre dans ma playlist sur ma musique en continu. Mais je ne l'ai pas trouvé. Peut-être que ce n'est pas disponible. Et c'est à vous, Serge, maintenant. Donc là, vous allez nous amener...
On parle du là, début c'est... de l'éducation en c'est Nouvelle-France.
Ah, d'accord.
Dans la revue Cap au diamant de l'automne 2003... Qui se vendait à l'époque 7,50 $.
Ah, et là, oui, et là une... on est à combien?
J'en ai acheté une il y a un an, je pense que dans les 11 ou 12, je pense, de mémoire.
Quand même.
Oui. Alors, un article de Jacques Lacourcière, l'historien et animateur également à la radio. Alors, c'est Marguerite Bourgeois, enseignante et religieuse. L'année 1653 marque un tournant dans l'histoire de Montréal. L'arrivée de plus d'une centaine d'hommes qui forment la grande recrue. Ce qu'on a appelé, c'était pas un mouvement, une... on appelait ça la grande recrue. Redonne le courage à celles et ceux qui vivaient dans l'inquiétude depuis plusieurs années. En 1651, Ville-Marie, qui comptait alors une cinquantaine de colons, subit les attaques iroquoises. Jugeant qu'une telle situation ne peut plus durer, Paul de Chomédé de Maisonneuve, gouverneur de la petite colonie qui est un État dans l'État, décide de se rendre en France dans l'espoir de travailler à un accroissement considérable de la population. « Je tâcherai d'amener 200 hommes pour défendre ce lieu, que si je n'en ai point de 100, je ne reviendrai point et il faudra tout abandonner, car aussi bien la place ne serait pas soutenable », déclare-t-il avant de partir, en vieux français. L'idée de vider la Nouvelle-France de la présence française ne germe pas seulement chez Maisonneuve. À Québec, Marie de l'Incarnation, supérieure des Ursulines, écrit à son fils Claude « L'on projette de tout quitter et de faire venir des vaisseaux de France pour sauver ceux qui ne seront pas tombés à la puissance de nos ennemis. » Ah, on est passé à près de l'abandon. Comme la mission de Maisonneuve en France se développe très bien, le fondateur de Ville-Marie songe au développement de sa petite colonie. S'il a fallu attendre 6 ans avant qu'il naisse un premier enfant, depuis 1658, le nombre de naissances augmente continuellement. Mais, évidemment, le taux de mortalité infantile est très élevé. Barbe Meunier voit le jour le 24 novembre 1648 et décède le 3 du mois suivant.
Barbe Meunier, oui.
En 1649, seulement 3 enfants sur les 10 qui naissent échappent à une mort prématurée. C'est énorme. Hein?
Combien? 4 enfants
Trois enfants sur les 10. Oui. Wow. En bon administrateur, Maisonneuve cherche à recruter une personne pour s'occuper de l'instruction des enfants. En 1652, le gouverneur de Ville-Marie séjourne dans la ville de Troyes, où sa sœur, Louise de Chaumédée de Sainte-Marie, est directrice de la congrégation externe de Notre-Dame. Parmi les congrégationnistes, il y a une fille âgée de 32 ans, Marguerite Bourgeois. Les propos de sœur Louise lui a appris bien des détails sur Ville-Marie. Maisonneuve réussit rapidement à convaincre Marguerite d'émigrer à Ville-Marie pour s'occuper de l'éducation des enfants. Elle deviendra donc la première institutrice laïque. La traversée de l'océan Atlantique est pénible. Savez-vous combien de temps ça prend à ce moment-là pour traverser de la France à la Nouvelle-France?
C'est plusieurs mois, hein, je pense.
Quelques semaines. Pas de deux mois.
Deux mois.
Ouais. Deux mois.
Le vrai départ a lieu le 20 juillet 1653 et Marguerite débarquera à Québec le 22 septembre. Presque deux mois, jour pour jour, à deux jours près. Je pars de Québec le plus tôt qu'il me fut possible, raconte Marguerite, quoique nous n'arrivâmes à Montréal que 15 jours après la Toussaint. Comme il n'y a pas encore d'enfants d'âge scolaire, elle aide les femmes des colons dans de menus travaux, agissant comme une vraie aide sociale. Ce fut la première aide sociale du Québec. Enfin, le 22 janvier 1658, la future fondatrice de la Congrégation Notre-Dame accepte devant le notaire Bénigne Basset la concession d'un terrain sur lequel il y a une étable, un édifice en pierre de 36 pieds de long sur 18 de large, situé près d'hôpital, avec un terrain contigu de 48 perches. Quelques semaines plus tard, cette première école montréalaise accueille quelques filles et quelques garçons en âge d'apprendre. Ça, on a souvent entendu parler
On n'a même pas le nombre, hein? C'est quelques garçons et quelques filles. Donc, ça doit être moins de 10 ou moins de 20.
Consciente des besoins à venir, Marguerite Bourgeois décide de se rendre en France dans le dessein d'amener quelques filles pour m'aider à recorder les enfants, dit-elle. Le 14 octobre 1658, elle quitte donc Québec pour La Rochelle, puis à Troyes, elle rencontre de ses anciennes compagnes de la congrégation, Catherine Crelot, Marie Raisin, Aimée Châtel, qui viendront avec elle dans la colonie. Le 7 septembre 1659, toutes débarquaient à Québec après une traversée orageuse qui dura deux mois. À cette époque, il était question que les Ursulines aillent s'installer à Montréal, ce qui signifiait que Marguerite Bourgeois et ses compagnes devraient reprendre le chemin de la France, vu que leur présence aurait été quasi inutile.
Mais ça aurait changé l'histoire complètement.
Complètement. Mais le projet n'eut pas de suite. Même si elles mènent une vie commune, ces femmes ne forment pas une communauté au début. Elles n'ont pas de costume particulier et ne sont pas soumises à une règle précise. Elles se consacrent à l'enseignement, c'est tout. Vers l'année 1666, le sulpicien Gabriel Souard, premier curé de la paroisse Notre-Dame et seigneur de l'île de Montréal, ouvre une école pour les garçons, ce qui signifie qu'à Ville-Marie, Marguerite et ses filles vont se consacrer exclusivement à l'instruction des filles. À cette époque, elles s'occupent aussi des filles du roi qui n'ont pas encore trouvé à se marier.
Ah ben c'est très intéressant. Et c'est ainsi que se termine la première partie de notre émission. On vous revient après une courte pause. À tout à l'heure.
Must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Au votre service, vous entendiez Bob Dylan, Blowin' in the Wind.
Merci beaucoup, Maurice. Hey, c'est vraiment un excellent choix musical.
Oui.
C'est à vous qu'on doit ça, Daniel?
Oui, absolument.
Et là, on va savoir de quoi vous allez nous parler.
Oui, ben, en fait, c'est un article que j'ai trouvé dans le Rolling Stone magazine. Bob Dylan fait revivre des titres rares en concert et c'est tant mieux. C'est le titre de l'article qui est paru le 30 août dernier. La légende vivante du folk rock américain propose des relectures de chansons de Highway 61 Revisited qu'il n'a plus rejouées depuis des années. Depuis quelques années, Bob Dylan s'est lancé dans sa Never Ending Tour, donc la tournée éternelle qu'on pourrait traduire en français. Une espèce de tournée infinie parcourant le monde sans relâche. Une chance inouïe de voir un mythe de la musique moderne en live, mais qui commence à accuser d'un léger bémol la setlist. Cette liste, on dit ça, nous, mais...
Vous voulez dire, vous, les gens du milieu, là?
Ouais,
mais moi, nous autres, la plèbe, ça me dit rien, moi, la cette liste.
En tout cas, le programme.
Expliquez-nous.
Bon, ouais, le programme du spectacle,
disons, en
français. Bon, c'est, si les fans pouvaient encore être surpris au milieu des années 2000, depuis 2013, ils sont quasi assurés d'entendre « Things have changed » en guise d'introduction, suivi par les mêmes titres récités à la note près. Un fan a remarqué que l'artiste a joué « Pay in Blood » plus de 400 fois depuis la sortie du titre en 2012. Les musiciens doivent le savoir. Là,
c'est mais que, ça, ça veut-tu dire que le fan est allé aux 400 shows pour voir
je sais pas, ouais, ou s'il fait juste parcourir les sites web pour voir qu'est-ce qu'il a joué. Mais s'il a fait tout ça, bravo. Un chiffre encore plus important pour Early Roman Kings tiré du même album. Avec une setlist aussi rigide, c'est à se demander si le chanteur tente de trouver un sens caché à ses propres chansons ou de rendre fou le groupe qui le suit en tournée. Mais peut-être que pour la mémoire, c'est très bon, par exemple. Quand même pas jeune, Bob Dylan.
Ben effectivement,
ses chansons ont beaucoup de textes. Hein,
peut-être que Sexy arrête de les chanter et oublie les paroles.
Effectivement. Fait que je pense que c'est plus rassurant pour lui en partant. Mais on dirait bien que c'est en train de changer. En juillet dernier, à Séoul, en Corée du Sud, Dylan a ouvert son live par All Along the Watchtower, titre qu'il n'avait plus joué depuis 3 ans. Durant d'autres concerts qui se sont tenus cet été, les fans ont eu la chance d'entendre Gotta Serve Somebody, qui date de 1979, et When I Pay My Masterpiece, de 1971, deux titres sortis de la setlist depuis 7 ans. Mais c'est au terme d'une série de 17 concerts donnés d'affilée qui s'est achevée le 27 août dernier à Christchurch en Nouvelle-Zélande qu'il réserva les plus grosses surprises à ses fans en jouant Like a Rolling Stone, joué une seule et unique fois en 5 ans. D'ailleurs, il y a plein de monde qui pense que c'est les Rolling Stones qui ont fait cette tournée. Ils l'ont reprise, mais c'est une chanson de Bob Dylan. Et It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry, morceau rarissime entendu pour la dernière fois en 2005. Deux classiques de l'album Highway 61 Revisited enregistrés le même jour en juin 1965, du pain béni pour les fans qui ont témoigné de leur joie sur le site Expecting Rain, site qui est dédié au chanteur. Si aucun enregistrement n'a pour le moment filtré, des témoins affirment que Dylan a tout simplement réinventé Like a Rolling Stone. Un fan décrit notamment de superbes arrangements, dont un passage très lent durant lequel le bassiste fait plier sa contrebasse. Ça, je voudrais voir ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire par là au juste.
Ah, fait que même j'essaierai vous comprenez pas de faire plier ça.
Non, je ne comprends pas trop. Là.
Mais peut-être qu'il nous prépare un nouvel album live.
Ah oui, c'est possible. C'est possible. S'il fait
moi,
des
je me posais la question,
ça.
Je ne sais pas si vous allez en parler, mais... là, il a reçu le prix Nobel de littérature pour mm-hmm. l'ensemble de son œuvre. Peut-être qu'il s'est senti obligé, non, hein? Bob Dylan se sentir obligé.
Je pense que c'est ça, t'as dit le vrai mot. Je pense pas que Bob Dylan se sent obligé à rien.
Non, mais parce que là, tout à coup, il donne accès un peu plus à l'ensemble de son œuvre. Ouais. Alors, peut-être
juste pour se faire plaisir à lui. C'est pour se faire plaisir à lui, d'après moi. L'autre titre, It Takes a Lot to Laugh, existe depuis 1965, lorsqu'il le joua durant son légendaire concert au Newport Rock. Ouais, non. Celle-là, j'ai aussi jamais.
Prenez une grande respiration. Oui.
Le Newport Folk Festival de la même année, alors qu'il s'appelait encore Phantom Engineer, le titre de la chanson, ça. En retouchant les arrangements lors des sessions d'enregistrement de Highway 61, Dylan en fit une de ses plus grandes blues songs, classée au 61e au top 100 des plus grands titres de Bob Dylan, d'après Rolling Stone US. Quelques fans chanceux purent entendre une version très réussie du titre le 30 juin 1999 au Madison Square Garden à New York, lorsque Dylan rejoignit Eric Clapton lors d'un concert caritatif organisé par ce dernier pour son centre de réhabilitation. Une version upbeat plus rapide, durant laquelle les deux guitaristes semblent s'amuser comme des fous. Des changements dans la setlist de Bob Dylan qui prouvent bien qu'il cherche encore et toujours à prouver quelque chose en jouant live. « Ce n'est pas en studio que les chansons prennent vie », expliquait-il à Michael Gilmore en 2012 lors d'un entretien accordé à Rolling Stone US. « Tu as beau faire de ton mieux, il manquera toujours quelque chose. Et ce quelque chose, c'est un public. » Comme les acteurs vont dire aussi, jouer au théâtre, c'est pas la même chose que d'être sur un plateau de cinéma, avoir la réaction.
Non, c'est
donc, et faire de la radio en direct, c'est pas comme faire de la radio en différé. Mm-hmm. Non, mais c'est vrai.
Oui, effectivement.
Parce qu'on est en direct, c'est pas la même énergie.
On voit pas beaucoup les auditeurs, par exemple.
C'est sûr qu'on les voit pas, mais on sent
que la réaction est pas aussi directe. Donc, de quoi nourrir quelques espoirs pour le reste de la tournée qui reprend les routes américaines dès le 4 octobre prochain avec une date à Phoenix, en Arizona. Les fans pourraient enfin avoir droit à de la nouveauté. Ou peut-être va-t-il prendre tout le monde à contre-pied et reprendre la setlist originale. Ce qui est sûr, c'est qu'il se moque bien de ce que préférerait le public.
J'en ai parlé un peu en début d'émission. Nous allons parler de la nation Mohawk, qui est une... Vous avez tout à l'heure, quand je vous ai posé la question de me nommer des nations autochtones présentes au Québec, vous m'avez dit les Iroquois. Alors, en fait, les Iroquois ou les Iroquoiens, c'est une nation qui regroupe, entre autres, les Mohawks. Alors, c'est pour ça que je disais que c'était un peu trop général.
Oui, oui. Mm-hmm.
Et si jamais je me trompe, vous m'écrirez, parce que c'est toujours possible, l'erreur est humaine et je suis humaine. Alors, c'est un texte que, donc, je vous parle. Montréal, Montréal commémorera la présence historique des Autochtones sur la rue Peel. Alors, est-ce qu'on commémorera sur la rue Peel ou est-ce qu'on commémorera la présence sur la rue Peel? Alors, je pense que c'est un petit peu des deux. C'est un article que j'ai publié sur le site de Radio-Canada Espace Autochtone. Ça a été publié le 28 août et c'est signé Jean-François Villeneuve. Alors, la ville de Montréal profitera du réaménagement de la rue Peel. Hein, on a l'impression qu'il y a toujours des cônes oranges, là. Et c'est le cas.
Il y en a un peu partout à Montréal.
C'est ça, à Montréal. Et je pense que c'est un peu partout au Canada aussi. Mais nous, on s'en ressent beaucoup. Donc, tant qu'à avoir des cônes oranges, on en profite. Donc, pour créer un parcours linéaire afin de souligner la présence historique des Mohawks dans la métropole québécoise. Le directeur général de l'organisme Montréal Autochtone voit cette volonté de rendre hommage aux Premières Nations comme une bonne nouvelle, même s'il reste beaucoup à faire pour donner une présence forte aux Autochtones sur le territoire montréalais. Alors, selon les plus récents plans inclus dans l'ordre du jour de l'Assemblée du conseil municipal, là où on en a parlé, on devrait retrouver donc dans ce projet l'intégration d'un motif particulier dans les grilles de fonte des arbres de la rue Peel. Les grilles de fonte des arbres, j'imagine que c'est quand il y a des arbres qui sont comme dans le trottoir puis il y a des grilles autour, là. Ou à moins que ce soit des grilles qui protègent autour des arbres. En tout cas, c'est pas précisé, mais bref, un mobilier urbain qui est déjà présent, mais dans lequel on va intégrer des motifs, propres aux Mohawks. Alors, et ce motif va être inspiré des milliers d'artefacts autochtones découverts dans les dernières années lors de fouilles archéologiques dans le secteur. Donc, c'est vraiment d'une présence dans le secteur qu'on parle, pas juste à Montréal en général. Des tessons de poterie, des fragments de pipes en céramique, des restes d'aliments ont été récupérés sur la rue Peel. Selon la ville, ces objets montrent que le site était occupé au 15e siècle par des Iroquois du Saint-Laurent. Des éléments commémoratifs devraient être intégrés au mobilier urbain en quelques endroits, ainsi qu'un espace où devraient être installés des sièges de fonte, représentant des sphères de dialogue entre les premiers habitants des lieux et les non-autochtones. Pour rappeler les potagers des Premières Nations, on va retrouver de nouveaux aménagements horticoles le long de la rue Peel. Ça, c'est vraiment intéressant. Aussi, moi, quand on parle de verdure, il n'y a jamais une mauvaise raison d'ajouter de la verdure à Montréal. Certains des éléments du projet pourraient s'arrimer avec ceux de la promenade Fleuve-Montagne, qui est située quelques rues plus à l'est. Selon le Conseil du patrimoine de Montréal, il va falloir aussi composer avec les particularités de deux autres projets de réaménagement du secteur, dont ceux du Square Dorchester et l'avenue des Canadiens de Montréal. Donc là aussi, il y a des cônes oranges et là aussi, il va falloir coordonner pour faire le projet en parallèle. Questionné plus en détail sur le coût spécifique des éléments commémoratifs, là j'aimais beaucoup la réponse du service des communications, a refusé d'accorder une entrevue parce que plusieurs des composantes du projet sont encore en cours de conception. Donc, ils ne savent pas encore combien ça va coûter, je serais très étonnée parce que le budget doit avoir déjà été voté. Donc, généralement, on ne dit pas « fabriquez-le puis vous me direz combien ça vous a coûté
ben ». Oui, ben oui.
Alors, mais bref, on ne sait pas exactement combien d'argent est dédié spécifiquement. Mais plus loin, on va voir combien d'argent est dépensé dans le projet de réfection. Le parcours va s'inspirer en partie de la promenade Fleuve-Montagne, donc dont on disait qu'il est un peu plus à l'est, qui a été inaugurée pour le 375e. Et ce parcours-là sur la rue Peel devrait voir le jour en 2019, selon les échéanciers, donc si on respecte ces échéanciers-là. Pour mener à bien le projet de commémoration, les instigateurs ont invité des représentants autochtones à participer à son élaboration, dont le Conseil des Mohawks de Kanawake. Ces discussions s'inscrivaient dans la démarche de réconciliation entreprise par la Ville de Montréal en 2016. Le directeur général de l'organisme Montréal Autochtone, Philippe Meyer, qui est originaire de Kanesatake, estime que le dialogue entre Montréal et des représentants Mohawks montre que le projet est sur la bonne voie. Quand on parle d'artefacts et qu'on parle avec les gens de la communauté en question, c'est approprié. Il dit aussi qu'il y a une sensibilité archéologique et une reconnaissance de l'histoire dans ce projet-là. Selon lui, toujours, la volonté d'axer la commémoration sur la présence historique des Iroquois dans ce secteur de l'île de Montréal justifie cette approche avec le partenaire Mohawk, comparativement à avoir, parlé à toutes les nations autochtones, hein, puisque, on est quand même de 20 à 30 000 Autochtones à Montréal. On y retrouve plus d'une trentaine de nations. Il n'y a pas que des Mohawks, nous dit M. Meyer, mais le projet vise spécifiquement les Mohawks, alors des artefacts Mohawks. Donc, c'est justifié de parler à leur nation. Et si Philippe Meyer trouve le projet de la rue Peel louable, il critique tout de même le peu de place qui est fait à Montréal pour souligner la présence des Premières Nations. Il dit qu'il n'est pas dans la mouvance de vouloir arracher des statues, mais c'est en ajoutant du contenu et des espaces positifs et actuels qu'on réussira à faire une plus grande place aux Autochtones. Toujours selon M. Meyer, il faudrait un lieu dédié spécifiquement aux dizaines de milliers d'Autochtones qui habitent la métropole québécoise. Il y a la place des arts pour les spectacles, mais il manque un espace à nous pour faire les événements. Certains lieux grand public sont solennels, mais nous, on n'en a pas. On n'a pas d'église, par exemple. Il aimerait ça avoir un espace naturel aménagé et géré par des Autochtones. Moi, je suis allée, ils parlent du jardin des Premières Nations dans le jardin botanique. Moi, je suis allée, j'ai eu la chance d'entendre Joséphine Bacon, qui est une grande poète innue, qui était là en personne. C'était vraiment, je ne m'y attendais pas, puis c'était une belle surprise. Donc, dans ce jardin des Premières Nations, au Jardin botanique de Montréal, il y a un emplacement dédié aux Premières Nations, il y a un sweat lodge, mais le jardin n'est pas ouvert à tous. Il faut payer pour y aller. Donc, ce n'est pas la même chose. Et il n'y a pas de cours d'eau à cet endroit-là. Et ça, c'est très important pour certaines communautés, la présence d'un cours d'eau. Et il y a aussi, ce que déplore M. Meyer, c'est aussi l'impossibilité d'utiliser les berges du fleuve pour y aménager des espaces de regroupement. Et c'est problématique selon lui. Alors, je vous parlais d'argent tout à l'heure. Je conclue en disant que voyons. Peut-être que je devrais respirer plus souvent quand je parle. La conception du projet s'inscrit dans le cadre d'importants travaux évalués à 65 millions de dollars. Alors, peut-être que ce n'est pas une mauvaise idée d'en consacrer une partie justement à commémorer la présence des Autochtones dans ce secteur de la ville. Au terme de ces travaux, la rue Peel sera complètement réaménagée en surface et les systèmes d'aqueduc et électrique souterrains seront aussi remis à niveau. Les travaux ont commencé en 2017 et, je le disais, devraient se terminer en 2019. Alors, Serge, donc là, vous allez nous parler de ces fameuses écoles de rang.
Que vous n'avez pas connu, mais Daniel et moi, on a sûrement connu. Vu nos grands âges.
Mais c'est que je souligne quelque chose, j'ai quand même pas connu, mais j'en ai entendu parler.
Mais vous n'avez pas grandi dans un rang, c'est pour
non,
ça.
Non, mais ma grand-mère maternelle est née en 1900, en janvier 1900. Mm-hmm. Et à l'âge de 14 ans, elle enseignait dans une école de rang.
Ah,
donc j'en ai entendu parler beaucoup. Je sais un peu comment ça fonctionnait à l'époque. Puis je faisais allusion tantôt à Émilie Bordelot, parce qu'elle, ce qu'elle a vécu, ça ressemblait peut-être pas avec Roy Dupuis. Là.
Non, mais...
Oui, ben oui.
Mais oui, effectivement, ça donnait une bonne idée. Oui.
Alors, c'est un article toujours dans le Capot Diamant de l'automne 2003, un article de Jacques Dorion, qui est un ethnologue de formation, et qui s'intitule « Un patrimoine à découvrir, les écoles de rang ». Quelles sont questionnantes ces rares petites écoles que l'on découvre parfois au fil des rangs qui découpent la campagne québécoise? Si on les comptait autrefois par centaines, voire même par milliers, comme on le verra tout à l'heure, aujourd'hui, seules quelques-unes ont survécu à la Révolution tranquille alors qu'elles ont été rayées de notre paysage scolaire. Converties en maisons, chalets, hangars à machinerie, poulaillers, salons-bars, hangars halte pour motoneigistes, etc. Bon nombre des écoles de rang du Québec ont donc perdu leur identité première ou ont tout simplement été démolies. Il faut préciser que lors de leur fermeture officielle, aucune mesure ne fut mise de l'avant pour veiller à la conservation de ce patrimoine scolaire.
C'est vrai que ça aurait été intéressant de garder, ne serait-ce que certaines écoles, pour pouvoir en faire des musées. Oui.
Ben, il y a quelques endroits où on va le voir.
Vous allez nous en parler sûrement.
Depuis une vingtaine d'années toutefois, le souci de la conservation du patrimoine rural a incité quelques municipalités ou organismes, parfois des particuliers, à redonner vie à l'école de rang. À Victoriaville, la maison d'école du rang 5 Chicot, au 416 avenue Pidis, pour être plus précis, érigé en 1903, a conservé son décor authentique, évocateur de cette période. L'école de l'île de Rivière-Ouel, construite en 1931, a notamment servi de décor au tournage du téléroman Cormoran, qui est repris d'ailleurs actuellement sur Art TV.
Ah oui.
En reprise.
Et donc cette école-là, l'école de l'île, a servi.
Oui, à l'école à la Rivière-Ouel. On a peine à imaginer aujourd'hui que l'école de rang a été pendant plus de 130 ans la pierre angulaire du système d'éducation du Québec en milieu rural. De 1829, date qui coïncide avec la création de la loi des écoles d'assemblée, à 1964, année où la fermeture de la plupart d'entre elles est décrétée au profit des écoles de village, l'école de rang aura été associée à l'instruction de milliers d'enfants. Des enfants de 6 à 14 ans se rendaient quotidiennement à l'école, à pied, parcourant souvent plus d'un kilomètre. Il n'y a pas de zone scolaire à ce moment-là. Ils étaient regroupés dans une seule classe où la maîtresse d'école réussissait à enseigner 7 niveaux de scolarité différents. Imaginez-vous ça.
Quand même, hein? C'est 7 niveaux.
Oui, vous apprenez à écrire à un, puis à l'autre, vous lui donnez des dictées avancées. Et son appellation de maîtresse d'école comptait une autre réalité. La maîtresse d'école veillait à l'entretien de l'école, au chauffage, en plus bien souvent de loger dans les combles qui lui servaient de chambre à coucher, de cuisine et de salle de bain, comme on le voyait dans la...
Absolument. Avec les bords de l'eau.
Oui, absolument, ouais, c'est ce que ma grand-mère me contait. Mm-hmm. Elle dormait là, sur place. Ah, il fallait chauffer le poêle à bois pour réchauffer l'école, surtout pour que les enfants arrivent le matin.
Aujourd'hui, ces images du passé semblent s'associer spontanément au folklore ou faire partie de l'histoire de vie romancée de quelques-uns. Pourtant, l'école de rang a été vécue au quotidien par des milliers d'enfants et d'enseignantes qui se donnaient à la cause de l'éducation. Derrière l'école de rang, il y a donc l'histoire et des histoires, et tout cela a commencé bien loin dans le temps. Sous le régime français, on peut brosser un tableau rapide du système d'éducation en soulignant que celui-ci est le privilège des centres économiques de la Nouvelle-France, c'est-à-dire Québec, Trois-Rivières et Montréal. Puis, à mesure que la colonisation progresse, des écoles de village apparaissent ici et là. Sillery en 1668, Saint-Joachim en 1668 également, Sainte-Foy en 1673, Château-Richer en 1674, Pointe-à-Lévis en 1689 et ainsi de suite. Dès ce moment, il faut savoir que l'Église a la mainmise sur l'éducation et que l'État y joue un rôle très marginal, sinon inexistant dans plusieurs agglomérations.
Ça, c'est vrai qu'on l'oublie souvent parce que c'est plus du tout le cas aujourd'hui.
Non.
C'est difficile de s'imaginer, en fait.
À quel point ça a été la mainmise religieuse. L'apparition des écoles de rang est une réponse adéquate aux réalités économiques de l'époque, évidemment, et son instauration fait figure de compromis entre l'État et l'Église. L'acte pour l'encouragement de l'éducation élémentaire, dénommé aussi « Loi des écoles d'Assemblée », traduit bien cette réalité. En 1829, on assistait à la fondation de plus de 262 écoles réparties dans les villes, villages et campagnes. Un an plus tard, on en dénombrait plus de 752. On passait de 262 à 752. Et en 1831, approximativement 1074 écoles étaient fréquentées par plus de 42 000 élèves. En 1951, le nombre d'écoles de rang au Québec atteignait 5125, selon les données du département de l'instruction publique de l'époque. Par contre, savez-vous que l'école de rang a été contestée?
Contesté. Dans le sens par qui?
Par qui, oui.
Oui, ben c'est ça. C'est vraiment surprenant ce que je vais vous dire.
Par des contestataires, je suis certain.
Mais l'école de rang perçue comme le prolongement de la famille ou le vestibule de l'Église reçut un accueil plus ou moins favorable dans les milieux ruraux du Québec. Coupez-moi pas, Isabelle.
Excusez-moi, bon. Vous parlez trop fort. Non, c'est pas vrai, j'ai accroché un bouton, je suis vraiment désolée.
Alors, elle a reçu un accueil plus ou moins favorable dans les milieux ruraux du Québec. La modicité des ressources de l'habitant québécois, un mode de production, l'agriculture qui requérait tous les bras disponibles au détriment de la fréquentation scolaire, amenèrent en plusieurs milieux une contestation musclée lorsqu'il s'agissait d'implanter une école de rang. Ajoutons à cela une antipathie manifestée par plusieurs habitants face à l'instruction qui percevait la maîtresse d'école comme une fainéante.
Elle avait 7 niveaux, fallait qu'elle s'occupe de l'école, qu'elle fasse le chauffage, non, c'était une fainéante.
Une fainéante. Non, elle ne voulait pas travailler.
Ou une ratée qui craignait de salir les mains sur la terre. La manifestation la plus extrême fut la guerre des éteignoirs, plus ou moins une guerre, là, née de l'opposition d'une partie de la population à la taxe scolaire et à toute dépense pour les écoles, qui entraîna l'incendie de plusieurs écoles de rang au milieu du 19e siècle.
Hey, les gens.
Incroyable.
Hein? L'être humain, là. Ouais. Ben, il me semblait aussi qu'il y avait une affaire d'argent dans cette histoire-là. Ouais.
Pour contrer ce courant et pour sensibiliser la population au bien fondé de l'éducation, un système d'inspectorat est mis sur pied en 1851. Les plus vieux d'entre vous se souviendront du « Bonjour, monsieur l'inspecteur » lors de sa visite à l'école de rang. Ben, moi, j'ai connu ça, c'était pas une école de rang.
Ben, les plus vieux d'entre vous, mais là, il s'adressait, il était en 2000... En quelle année, là, ça a été écrit, cet article-là?
19e siècle, oui.
Non, mais je veux dire, l'article a été écrit...
En 2003.
2003, c'est ça. Donc, les plus vieux d'entre vous, en 2003, là, peut-être qu'aujourd'hui...
Et le passage de l'inspecteur nous donnait congé de devoirs et de leçons.
Ah oui.
Mais
la veille, est-ce qu'elle savait à l'avance? Parce que la veille, ils devaient vous faire pratiquer.
Bonjour,
les gens qui sont à l'école.
Puis on avait une tenue vestimentaire un peu plus
soignée.
Oui. On le disait à nos mères et nos mères. Les conditions de travail. La quantité de travail exigée de la maîtresse d'école de rang est énorme. En plus d'enseigner aux enfants à 6 ou 7 niveaux différents dans la même classe, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle doit aussi entretenir l'école, la chauffer, l'alimenter en eau et veiller à la salubrité des latrines. En 1900, les institutrices recevaient en moyenne 105$ par année. Alors que les instituteurs...
Par année!
Oui. Alors que les instituteurs percevaient, eux, annuellement 220$.
C'était quand même pas énorme, mais c'était. Mais bon, c'est sûr qu'il faut se représenter le coût de la vie, là, c'est plus difficile.
Mais la différence entre les hommes
et les femmes. Mais c'était quand même le double, double.
Oui. Les commissions scolaires, détenant le pouvoir de négocier localement, profitent de cette conjoncture pour introduire dans les écoles un personnel majoritairement féminin, parce que moins onéreux et plus maniable à leur dire.
Ben oui, ils sont pas fous.
Ben oui. En 1840, les institutrices forment 25% du personnel enseignant. 60 ans plus tard, ce pourcentage atteint 95%. C'est une enseignante des éboulements, Laure Gaudreau, qui a vécu de 1889 à 1975, qui met sur pied en 1937 le premier syndicat d'enseignantes. Et c'est grâce à elle que les salaires ont réussi à être augmentés parce qu'elles ont protesté. Et l'opinion publique s'est émue et les autorités intéressées se sont décidées à faire un pas, déclarait Laure Gaudreau en 1946.
Mais ça serait très intéressant d'essayer de nous trouver un article pour nous parler de la suite des conditions de travail des enseignants. Les syndicats, ça règle pas tout, mais... Alors, ben, c'est ce qui met fin à cette émission. Merci beaucoup à Maurice Bolduc, à la mise en onde et aux choix musicaux. Merci Daniel Lachance, Serge Bradet et moi-même, Isabelle Falardeau. Je vous souhaite une bonne journée, tout d'abord, et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Bye.